l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Michel Collomb et moi-même, Marie-Claude Quézac, qui vous recevons dans cette émission qui est un peu particulière puisque c'est la première émission que nous refaisons en direct après le décès qui nous a beaucoup attristé, la disparition de Madeleine Guyot, qui fut la cheville ouvrière de cette émission et qui l'a présentée durant des décennies, hein, je ne saurais dire combien de temps. Voilà, et donc pour ce redémarrage, c'est une édition spéciale puisque nous avons invité son époux, Guy Guyot, dont tout le monde sait bien que l'un n'allait pas sans l'autre et l'autre sans l'un. Voilà, et donc nous l'avons invité pour relater un petit peu, refaire un petit peu le parcours et parler de cette personnalité si riche et si extraordinaire de Madeleine, si militante aussi, et d'une militance qui les a accompagnés tout au long de leur vie de couple. Voilà, donc bonjour à mon collègue Michel.
Bonjour.
Voilà, que vous allez entendre sous peu. Bonjour Guy Guyot.
Bonjour Marie-Claude.
Et bonne arrivée, au Burkina Faso, bonne arrivée parmi nous dans cette émission. Et donc, voilà, on vous a invité. J'aimerais bien que peut-être que Michel vous commence un peu à vous aiguillonner en tant qu'homme, peut-être en tant que masculin, qui commence un petit peu à vous poser peut-être quelques questions, parce que je sais qu'après, les propos vont venir d'eux-mêmes.
Voilà, eh ben, écoute Guy, je suis content d'interviewer, d'avoir ce privilège-là. Tes engagements et ceux de Madeleine ont été innombrables. J'avais été très flatté quand elle m'avait proposé de reprendre son émission avec Marie-Claude et avec également
Philippe.
Philippe Lost, voilà. Tes engagements, ils ont été très divers et en particulier, je connais ton engagement syndical à la CFDT, je connais tes engagements à la maison qu'on appelait des tiers-mondes à l'époque, on appelle maintenant la maison des territoires du monde
et de,
la solidarité internationale. Et tu t'es également engagé beaucoup dans le monde, je crois, dans le monde de l'agriculture biologique. Voilà. Donc, je pense qu'on pourra peut-être parler de ça. C'était un engagement, comme ça a été déjà indiqué, un engagement commun que vous aviez avec Madeleine. On va donc en parler un petit peu. Et puis, peut-être, je vais repasser la parole à Marie-Claude.
Voilà. Ben moi simplement, il y a une chose qui me vient tout de suite après les propos de Michel, c'est quand même l'action civique non violente et sous cet engagement pour la paix, qui est quand même quelque chose qui a tenu à cœur Madeleine jusque pratiquement à la fin, jusqu'à son dernier soupir, puisqu'il y a eu un gros événement qui s'était passé à Montpellier, ou la ville de Montpellier, mais peut-être que Guy, tu vas pouvoir nous en parler. Voilà, déjà de votre engagement à tous les deux, voilà, tout au long du chemin, et en commençant par cet engagement pour la paix.
Voilà, bah, c'est vrai que avant de se connaître, l'une et l'autre, l'autre étant moi, on était engagés chacun de notre côté avec le mouvement lancé par Lanza Del Vasto, donc en tant que disciple de Gandhi, pour développer l'action non violente en France. Donc c'était à la fin de la guerre, ça remonte très très, très loin. Et moi, au cours de mes études, ben, j'ai été en contact aussi avec un élève ingénieur, on faisait la même école, et lui-même était déjà très branché, disons, sur l'arche de Lanza Del Vasto et sur l'action non violente, d'une part, et d'autre part, sur l'aspect agriculture respectueuse de la terre, avec un grand T. Et donc, là, ça nous a conduit, après un voyage au Kurdistan de Turquie, où on a découvert le problème kurde, la recherche de contact pour écrire un livre qui a jamais dû, qui est jamais été rédigé, mais ça nous a fait quand même connaître un professeur de kurde à l'école de langues orientales qui était en fait un ancien émir réfugié politique en France, et on a pu s'installer à Sainte-Geneviève-des-Bois tout en ayant nos activités professionnelles comme ingénieur électricien électronicien, moi-même étant embauché par EDF, faire de la culture lors de nos week-ends, et on faisait en quelque sorte en amateur de la culture biologique pour aller diffuser nos productions au mouvement La Vie Claire, les boutiques de La Vie Claire. Voilà. Et quand on s'est rencontrés, on a constaté que l'un et l'autre, on était très branchés sur l'action non violente dans la ZAD d'El Vasto, et puis très sensibilisé à cette dimension autogestionnaire qui était présente aussi au PSU. Madeleine s'est engagée dès la création du PSU dans l'équipe de Montpellier. Et une fois que la guerre d'Algérie s'est terminée, entre guillemets, parce qu'il y a eu encore beaucoup de problèmes après, mais c'est l'équipe PSU qui lui a demandé de lancer le mouvement contre l'armement atomique, qui était une initiative aussi d'un groupe PSU au niveau national. Et elle est devenue responsable et animatrice du mouvement contre l'armement atomique, devenu en 68 Mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté.
D'accord. Et donc, moi, j'aimerais bien que tu me parles, justement, parce que ça m'avait beaucoup touché, de l'aboutissement d'un combat, enfin, aboutissement, en tout cas, montpelliérain, du combat de Madeleine, et le tien aussi, pour la paix. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, je crois que c'était au mois de mars, avec le maire de Montpellier, qui a signé, donc, tu peux nous rappeler ce que c'était ?
Oui,
parce que je pense que Madeleine était rayonnante à ce moment-là.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, je dirai 3-4 phrases de conclusion qu'elle avait faite.
Qu'elle avait faite, d'accord. Okay.
C'est une action qui remontait très très loin au moment du lancement de la force de frappe française, avec les problèmes de tous les essais nucléaires, d'abord au Sahara et puis ensuite en Polynésie. Donc là, il y a eu toute une campagne qui a été durée très 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 longtemps pour mettre en avant les retombées sur les populations. Et ça, c'était dénié, évidemment, par les responsables politiques. Et on a fait un travail à la fois d'information et d'enquête. Et c'est surtout notamment l'équipe de Lyon, avec Bruno Barillo, notamment, qui a organisé beaucoup de travail avec le corps médical. Et ça a pu être enfin accepté par le gouvernement, d'accepter au nouveau gouvernement français une responsabilité de l'État français par rapport à la situation médicale de toutes ces populations-là.
Oui. Et donc, le maire de Montpellier a signé.
Déjà, il y a eu une première étape avec Hélène Mandrou comme maire de Montpellier, Madame Mandrou. La ville de Montpellier était jumelée avec la ville d'Heidelberg. Et cette année-là, le maire d'Heidelberg était une dame. Et puis ensuite, il y a eu l'invitation d'une dame maire de Montpellier, Vermont, qui est une petite ville aux États-Unis. Et c'est au cours de cette rencontre-là qu'il y a eu déjà un premier pas vers l'adhésion à l'Association des maires pour la paix, parce qu'on a pensé les uns et les autres que c'était important d'ancrer ce mouvement, ce large mouvement de mobilisation politique au niveau des communes, le plus près le plus près de la population. S'il y a une guerre nucléaire, ben c'est la population qui est la première, évidemment, touchée, et pas forcément les responsables qui ont le temps de se faire construire des bunkers, etc.
D'accord. Et donc, la ville de Montpellier est devenue solidaire complètement, intégralement, avec son maire, avec la signature. Donc, tu nous liras le texte tout à l'heure, parce que c'est intéressant. C'est intéressant de savoir, on aura le vécu de Madeleine à cette occasion-là.
Moi, j'avais été très étonné de voir qu'elle ressuscitait un peu cette problématique du désarmement, dont on parlait quand même un peu moins depuis quelques années. Oui.
C'est vrai. Et c'est vrai que quand elle luttait,
elle était pas semblant, tenace.
Guy en sait quelque chose.
Ouais. Ah ben, là aussi à côté. J'apprécie d'ailleurs, parce que c'était elle qui me remontait le moral quand il y a des fois il y avait un petit peu de découragement, quand on a l'impression que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est toujours à refaire. Ouais. Et je suis toujours dans cet état d'esprit-là. Hein. Ouais. C'est toujours à refaire.
Et donc, le combat, votre combat, tous les deux, c'était un combat pour l'égalité, pour la liberté, pour la paix. C'était un petit peu tout ça. Non, Michel,
Ouais. Oui, alors comment ça avait pris forme, finalement? Est-ce qu'il y a eu des années qui ont été particulièrement décisives pour cette mobilisation?
Pour nous, oui. Oui. Il y a le... l'attentat contre Salvador Allende, le coup d'État au Chili. Oui, et en fait, je me suis retrouvé de fait un peu animateur du groupe d'accueil des réfugiés chiliens, donc en 73. Et ça a été à l'époque aussi où il y a eu la coalition des pays producteurs de pétrole avec la montée des prix du pétrole. Et alors, ici, il faudrait que on a commencé à faire une réflexion globale. Et dans l'équipe qu'on avait à la fois au PSU, mais au-delà, bien au-delà, il y avait beaucoup de gens, de personnes, des chercheurs et des ingénieurs qui étaient engagés dans plein d'organismes agronomiques. Le CIARAD, le CNEARC, l'IRD, etc. Et on a commencé à faire des échanges, y compris avec des grandes organisations de solidarité internationale, dont le mouvement international de la réconciliation qui avait été créé après la guerre de 14-18. La réconciliation, c'était entre France et Allemagne, d'où l'importance du jumelage avec Heidelberg, et puis avec tout ce qui s'en est suivi après, d'actions menées en commun avec Montpellier sur cet axe-là. Et puis... pour avoir une réflexion de fond globale, quoi, au niveau de la planète tout entière. Et c'est là qu'on rejoignait cette dimension lutte contre la course aux armements et contre les essais nucléaires, avec une prise de conscience que la Terre, c'est quelque chose de limiter, et que le développement à tout craint et sans limite, c'était une impasse tout à fait, et particulièrement au niveau du maintien des sols et du développement au sens large du terme de tous des pays, au nord comme au sud.
D'accord, donc on revient toujours à cette...
Pour nous, c'était tout est lié.
C'était une lutte globale à mener.
Oui, oui.
À un moment d'ailleurs où le thème du développement s'était un peu estompé de l'opinion publique. Hein. Les pays des tiers-monde, on n'était plus très intéressé par la problématique du développement. Et c'est passé à l'arrière-plan.
Ouais. C'est sûr.
Tout à fait.
Alors, comme c'est très dense, je vous propose une pause musicale. Donc, la pause musicale, c'est un morceau que Guy a choisi. Je pense qu'il l'a choisi aussi en pensant
à Madeleine.
Voilà, à Madeleine. Et donc, le titre, c'est
We Shall Overcome Sunday. Voilà.
Would you like to sing We Shall Overcome?
Cette belle chanson accompagnée d'une voix magique, sûrement en souvenir un petit peu pour Madeleine et Guy qui est présent et qui nous accompagne. Donc nous reprenons l'antenne. Donc Michel, voilà, j'aimerais bien qu'on explore encore avec toi d'autres aspects.
Cette question de l'agriculture biologique qui quand même a fini par percer, par s'imposer. Comment c'est né chez vous le problème? Comment vous l'avez vu? Et comment vous avez répondu?
Alors d'une part, donc avant qu'on se connaisse, Madeleine et moi, donc je faisais déjà de la culture bio en amateur. Et c'est à l'époque qu'on a créé au niveau national l'association Nature et Progrès, parce que ce problème-là du devenir des sols et de la terre, ça a démarré par des producteurs d'engrais bio, c'est le maire Boucher notamment, et après un certain nombre d'entre nous, on s'est dit, il faut rendre cette cause-là indépendante d'un vendeur de produits, voilà. Et puis qu'on puisse également structurer avec des gens compétents, des ingénieurs chercheurs, etc. Et alors moi-même, avec Roland Chevrillon, on faisait partie de l'aspect la petite équipe logistique, parce qu'on n'était pas du tout, on n'avait aucune formation agronome, même si à ce niveau-là, c'était encore, en étant amateur, ça, c'était déjà suffisant pour animer des débats de sensibilisation du grand public. Alors, avec ce qui était intéressant, dès le départ, on a pu quand même mettre dans le coup à la fois des organisations syndicales, pour pas la nommer la CFDT, qui était déjà sensibilisée sur cet aspect de développement de la planète tout entière, et des mouvements de consommateurs. Ça a vraiment été très, très, très important, notamment avec Que Choisir, etc. Et donc, il y a eu déjà cette liaison. Et quand Nature et Progrès s'est créé, il y avait à la fois des producteurs qui faisaient leurs premiers pas dans l'agriculture biologique, alors aussi bien du maraîchage que des arbres fruitiers, que de la vigne, et que de l'ensemble des activités de botanique et élevage. mais aussi une interpellation des organismes de recherche comme le CNEART, le CIRAD, l'Institut des religions chaudes,
l'école d'agronomie,
agro, voilà. Et alors, Madeleine, elle avait noté qu'il y avait un débat à Bordeaux, c'est là où était originaire sa famille. On avait programmé un petit voyage pour que, me faire connaître de la famille. Elle m'a dit, ah ben Guy, il y a justement un débat d'André Beer sur le thème humus, terre fertile. Ah ben oui, alors tout à fait. Et donc, pour dire que c'était en 65, hein, 65-66.
Ah bon ?
Ouais, ouais. Oui. Donc, voilà. Et alors, après, quand on s'est mariés, donc en 67, on a d'un commun accord, enfin tous les deux, on a dit, ben ça, Nature et Progrès que tu connais au niveau national, on va en créer un groupe au niveau de Montpellier. Et donc on a cherché, donc on avait déjà un certain nombre de contacts, à la fois des arboriculteurs, des viticulteurs, il y avait déjà des viticulteurs qui vendaient du vin bio à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, etc. Là, c'était agriculture bio et puis aussi l'agriculture bio de biodynamie lancée par le mouvement de Steiner, des anthroposophes. Voilà. Donc, tout ça, ça a été super. Et donc, on s'est dit, on va créer le groupe Nature et Progrès Héros. Et pour cela, on va chercher pour créer un groupe de relations directes. Producteur avec le consommateur et bien sûr au niveau des fruits et légumes. Eh bien, on a essayé d'explorer. Autour de Montpellier, il n'y en avait aucun. Il a fallu qu'on aille jusqu'à Villeneuve-les-Béziers pour arriver à trouver un maraîcher. Et chaque semaine, on allait chercher les légumes à Villeneuve-les-Béziers pour les vendre ici sur Montpellier, quoi, pour dire que le travail était encore très, très, très long. Et dès le départ, il y a eu une dimension internationale parce que les Allemands, pour la biodynamie, puis les Anglais, pour le bio, ils étaient très en avance par rapport à ce mouvement-là. Et donc, il y a eu aussi cette dimension internationale. Alors après, avec des gens comme Rabhi, voilà, que vous connaissez sans doute de réputation. Et petit à petit, donc, ça s'est développé. Et on a vraiment pris conscience que le devenir de la planète, avec le devenir de l'humanité par rapport au péril tout nucléaire, et c'était lié, quoi. Et donc, on a mené tout au long de notre vie les deux choses... ces deux axes d'intervention d'une manière constante. Voilà.
Oui, donc des précurseurs et des précurseurs endurants.
C'est-à-dire que là, c'était vraiment très, très difficile parce que, alors, d'une part, moi j'ai organisé des débats sachant que je n'étais pas du tout ingénieur agronome. Bon, moi, j'expliquais que je n'étais pas ingénieur agronome, mais que justement, s'il y avait des ingénieurs agronomes dans le public, c'était le moment ou jamais de s'engager, quoi. Oui. Et je me souviens qu'il y a certains qui me traitaient comme de farfelu, de retour en arrière, quand c'était une remise en question des engrais chimiques, de la touche chimie, tout ça, vous êtes contre le progrès, alors que moi je disais non, je suis ingénieur, j'ai ingénieur-chercheur sur les lignes à très haute tension, donc là aussi c'est pareil, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et ça a été long, mais les directeurs de la Chambre d'agriculture à l'époque, après, il avait été assez convaincu de la validité des choses qu'on avançait. Mais il me disait, tu sais, Guy, moi, mes conseillers, quand il y a tel problème, c'est tel engrais ou tel traitement, toi, ce que tu me demandes, tu mets en avant. C'est vraiment plus trop compliqué pour les conseillers. Alors j'ai dit, il faut les former. Alors je me suis dit, il y a une école agro à Montpellier, donc j'ai pris contact et j'ai proposé de faire pour la promotion sortante, une petite semaine d'information, sensibilisation, initiation à l'agriculture biologique. Et après, là, il y a eu une quinzaine d'élèves ingénieurs, et dont certains, ils ont, après, on les a retrouvés dans ce mouvement de nature et progrès, et puis d'agriculture biologique, au-delà même de nature et progrès. Voilà.
Donc, Michel, on voit bien l'importance d'être deux dans cette histoire-là. Hein, c'est pas pour rien qu'un couple s'est formé.
C'est sûr.
Dans les années.
Surtout que là, pour faire notre association un panier de légumes un peu avec les consommateurs, on avait des petits moyens. Donc, les paniers de légumes, on les livrait dans notre appartement. Et alors, on disait, venez dès le vendredi soir. Bon, le lundi soir, on avait encore des gens qui n'étaient pas venus chercher leurs paniers de légumes. Mais bon, on a pu petit à petit progresser. Et puis après, le groupe Nature et Progrès a volé de ses propres ailes. Et donc, tout en continuant à y adhérer, nous, on s'est plus investi sur tout l'aspect du lutte contre la course aux armements, contre les ventes d'armes, et contre les essais nucléaires et pour la création d'un monde dénucléarisé. On en est encore très loin.
Oui, on en est loin, mais heureusement qu'il y a des militants qui persistent, hein, envers et contre tout.
Et ces dernières années, Guy, ces dernières années, avec quand même ce recul de l'idéologie du progrès, ces inquiétudes contre le climat, comment elle vivait ça, Madeleine ?
Madeleine, c'était vraiment une combattante dans l'âme. Et puis, on se réconfortait mutuellement. Mais enfin, plusieurs fois, moi, j'étais assez découragé. Et puis, c'est elle qui me remontait le moral. Oui. Alors moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au niveau syndical, j'étais un moment responsable de la formation, y compris au niveau national, pour la Fédération Chimie Énergie. Et dans l'Hérault, il y avait quand même eu beaucoup de conflits où elle-même, documentaliste, archiviste aux archives départementales, m'a ressorti des documents d'archives, donc y compris les luttes de délégués syndicaux venant d'ailleurs pour essayer de développer ce débat, cette revendication-là. Alors la revendication, c'était les directeurs de mines, ils voulaient se débarrasser des vieux, entre guillemets, parce que ça coûtait très cher. Alors, tenez-vous bien, la revendication des salariés, c'était de dire, nous, on accepte de gagner moins, mais il faut qu'on garde les vieux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de retraite et comme ça. Et alors, les femmes, là aussi, ont joué un rôle incroyable pour maintenir ce combat-là. Et alors, avec ces documents-là, moi, dans mes sessions de formation, je distribuais ces documents d'archives et après on essaie de monter un jeu de rôle, sachant qui fait la police, qui fait le journaliste, d'accord, qui fait le délégué syndical, oui, qui fait la femme du délégué, etc. Et là, évidemment, ça, c'était très, très, très super au niveau pédagogique.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, d'accord.
Et alors là, je voudrais peut-être lire les trois petites phrases.
Justement, non, simplement, on va te laisser la parole à la fin. Simplement pour dire que quand même, on remercie Guy de ses témoignages.
Bien sûr.
On vient de prendre conscience de toute tout ce qu'ils ont pu faire dans leur vie à deux.
Motivation,
leur
engagement.
L'engagement, etc. Et puis bon, que les exemples qu'ils ont pu donner à leurs enfants aussi. Voilà, et donc je te laisse la parole de la fin peut-être.
Oui, tu y vas, Guy. Okay.
Voilà, donc c'est Guy qui va finir, qui va terminer.
Voilà, alors là c'était c'est extrait d'un petit document que Madeleine avait tenu à lire, qu'elle avait préparé après la signature par la ville de Montpellier pour l'abolition des armes nucléaires et pour l'introduction du traité international d'interdiction des armes nucléaires, donc qui s'est fait à ce moment-là le lundi 17 avril et qui a été signé par Michael de la Fosse, lequel lui-même avait participé à une des anciennes marches que Madeleine avait organisé auparavant et que ça lui avait fait un déclic par rapport à l'importance de la cause. Alors là, je reprends le texte de Madeleine. C'est avec satisfaction et émotion que je suis témoin aujourd'hui de la signature par notre maire de l'appel des maires lancé par la campagne AICAN, je peux, à soutenir le traité d'interdiction des armes nucléaires. Ce geste symbolique et politique montre que notre ville, qui se prépare à être la ville capitale de la culture en 2024, œuvre pour une culture de paix, soucieuse de donner aux citoyens et aux jeunes générations en particulier un cadre et un avenir où vivre ensemble puisse s'épanouir de jour en jour. Voilà ouais. Ces derniers mots, voilà. Disons, officiels. De
ainsi parlait Madeleine.
Ainsi parlait Madeleine. Voilà, voilà. Ce texte que je garde précieusement.
Bon, donc, au revoir à tous. Merci Guy de ce témoignage précieux. Voilà. Et puis Michel, on va se retrouver alors.
On va se retrouver la semaine prochaine. Oui. Il y aura une émission de présentation de la quinzaine
de la quinzaine, d'accord, qui arrive.
Avec et le titre, sa présidente.
Le titre, Michel, il faut dire le titre.
Ah, oui.
Parce qu'avec tout ce dont on vient de parler avec Guy, il est absolument vraiment d'actualité. Alors, c'était pas exprès.
Le titre, c'est « Alimentation, culture et souveraineté alimentaire ».
Voilà.
Voilà.
Voilà. Voilà. Merci à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.